qui sauvera la planète ? Est-ce que c'est les technocrates ? Est-ce que c'est les autocrates ? Ou est-ce que c'est les démocrates ? C'est le titre du livre de Nathanael Vollenhorst, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est docteur en sciences de l'environnement et en sciences politiques. Et avec Nathanael, on va essayer de répondre à cette question. En fait, on va faire le parcours des 6 grands discours autour de l'écologie. Vous verrez, c'est une conversation qui a beaucoup de bonne humeur, mais aussi qui a beaucoup de fond, et ça rend la chose extrêmement agréable, je l'espère. Je vous laisse en juger par vous-même. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nathanael.
Bonjour Grégory.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Ça va bien, très bien.
Bon, nickel. Tu commences ton ouvrage par une citation d'Anna Arendt que j'aime bien, et je vais la lire du coup. « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus prendre de décision. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser, de juger. Et d'un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Et donc c'est d'un entretien dans les années 70. Pourquoi tu as commencé ton ouvrage par cette citation ?
Eh ben merci beaucoup de commencer comme ça, puis de relever ça, parce que... Alors, pourquoi j'ai commencé avec cette citation ? Tout d'abord, parce que je suis un grand fan de Hannah Arendt. Voilà, j'aime sa pensée de façon très conséquente. Et la lecture des différents livres d'Arendt, et puis de toute elle écrit beaucoup de courriers, désolé, le terme ne me vient pas. Elle a écrit beaucoup de courriers avec différents intellectuels de son temps, etc., qui ont été publiés. Et toute cette littérature m'a vraiment beaucoup marqué. Donc ça c'est déjà la première chose, c'est un attachement en fait à Arendt. À travers cette citation aussi, ce que je souhaitais dire fondamentalement, c'est ma confiance dans la politique, en fait. C'est ce qu'elle dit à travers cette citation. Et puis aussi, la façon dont elle positionne au cœur de la vie sociale et politique, telle qu'elle l'espère ou telle qu'elle l'espérerait, les savoirs. Voilà, ce qui est par différenciation de ce qui n'est pas. Et puis, un élément vraiment important pour Arendt, c'est la capacité que nous avons à nous mettre d'accord sur les faits. Nous sommes capables de nous mettre d'accord sur les faits, et c'est un préalable avant toute chose. Et puis ensuite, autour de la table, toutes les visions du monde ont le droit de citer. On peut voir le monde différemment, ça ne pose pas de problème à partir du moment où nous avons pu nous mettre d'accord sur les faits. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes du temps présent. On a des difficultés à nous mettre d'accord sur les faits. Voilà, et de fait, quand on n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits, le spectre totalitaire surgit, apparaît. Et puis, juste pour finir comme ça avec Arendt, ce que j'apprécie aussi beaucoup chez Arendt, c'est la façon dont elle a pensé l'action politique, la liberté d'action politique. Pour elle, un faire est toujours possible. L'action est au cœur de sa conception du monde. Et une action politique, c'est-à-dire une action qui soit la résultante de la rencontre des libertés des uns et des autres. Et pour elle, il y a quelque chose de très fort dans sa pensée qui lui permet de croire d'une certaine façon à l'action possible et au renouvellement possible du monde. C'est les enfants, la natalité, le fait à un moment donné que des enfants puissent naître dans le monde, et ils sont de ce fait-là l'émergence de neuf dans le monde. Ce sont des êtres de fait radicalement nouveaux, et étant nouveaux, ils sont dépositaires d'une promesse, qui est une promesse de renouvellement du monde. Et donc le livre termine avec ça, en fait. Voilà, le livre termine avec la question des enfants qui font naître autour d'eux des éducateurs, des hommes et des femmes responsables, qui assument la responsabilité du monde, mais qui sont tout tournés vers demain, vers l'avenir. Voilà. Donc il y a l'idée, c'était de tisser une espérance, en fait, une espérance qui soit intellectuellement honnête, qui soit ancrée dans la politique, et puis cette espérance étant posée, alors là symboliquement, simplement en posant Arendt, et ben derrière on va aussi au cœur de l'horreur. Et ça a été aussi le chemin et le parcours d'Arendt, hein, qui a dénoncé, fui le nazisme, qui a été enfermé, etc., enfin qui a réussi à fuir le camp de Gurs, etc., et puis ensuite qui toute sa vie a été marquée, toute son œuvre, elle est marquée par la possibilité que l'humanité a de se détruire, avec pour elle cette expérience qui l'a marqué à tout jamais, qui est la découverte des camps, voilà, et la puissance destructrice de l'humanité.
L'horreur. Et en même temps, c'est marrant parce qu'elle a écrit donc ce bouquin sur le totalitarisme qui est hyper connu, les bases du totalitarisme. On pourrait penser que Trump, il a pris 101 à Hannah Arendt pour l'appliquer. En gros, c'est un peu ça, hein, quand on regarde ce qu'il a fait, c'est assez étrange, mais c'est quand même ce qui s'est passé. T'as pas la sensation que justement ce qu'elle critique dans cette citation, enfin dans cette phrase, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors évidemment, elle pouvait pas la voir à l'époque, hein, mais elle pouvait voir quand même les médias et la désinformation. Qu'à partir du moment où, et en particulier là aujourd'hui, donc bon, elle vit plus évidemment, mais à l'heure des médias sociaux où tout le monde a sa propre vérité, des bulles, etc., etc., du fait que les algos privilégient les avis très radicaux d'une manière ou d'une autre, et ben en fait on ne sait plus à quel sens vouer, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on demande à une personne de détenir la vérité, une sorte de c'est très bizarre parce qu'il y a un vœu de démocratie très fort, et en même temps il y a un vœu d'une personnalité forte qui vous dit bah ok, va ranger ta chambre, ou un peu comme un papa ou une maman, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois moi, en ce moment.
Tout à fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'est pas aidé par nos institutions, parce que moi je considère qu'on a vraiment besoin d'institutions, et tout particulièrement dans la question du rapport au savoir, c'est-à-dire c'est ce que tu soulèves là en disant à un moment donné chacun peut produire sa vision du monde, et derrière chacun peut aussi prétendre produire des faits alternatifs. Ça, c'est vraiment le pour le coup la nouveauté radicale qu'a amené Trump, hein. Certains ont des faits, nous avons des faits alternatifs. Faits alternatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un immense bobard, voilà, mais on l'appelle fait, voilà, mais c'est tout, c'est un enfumage comme c'est pas possible, c'est un 100% bobard, mais on appelle ça un fait alternatif. La trouvaille est absolument géniale, elle est complètement cynique et destructrice, mais il y a une espèce de coup de génie, dans rhétorique, quoi, dans cet élément-là. Et donc, on est confronté à une espèce de pluralité de savoirs, certains sont complètement faux, et puis au cœur de tout ça, on a besoin d'une institution. Et moi, je considère profondément qu'on a besoin de l'école institution du rapport au savoir. C'est pas YouTube l'institution du rapport au savoir. Sur YouTube, il y a tout un tas de choses, bien sûr, mais on a besoin de l'école. Et un des drames aussi de l'école aujourd'hui, c'est que les savoirs scolaires sont très différents des savoirs scientifiques. Et ça, c'est vraiment ce qu'a signifié de façon absolument magnifique Greta Thunberg, où à un moment donné, on se retrouve fin août 2018. Et puis, on a notre petite Greta Thunberg avec ses couettes, là, ses nattes, là, voilà. Et puis, qui a lu, alors elle est suédoise, elle a lu en anglais, et elle a lu des articles scientifiques. Et au fur et à mesure de leur lecture, il y a quelque chose qui grandit chez elle, où elle se dit, mais c'est pas possible. Ça, on ne me le transmet pas à l'école. L'école me transmet autre chose, un autre corpus de savoir organisé et animé par d'autres logiques. À l'école, on lui transmet des savoirs organisés autour d'une logique de continuité. Demain sera dans le prolongement d'aujourd'hui, qui est dans le prolongement d'hier. Voilà. Et tout est organisé à partir de ce paradigme, cette logique de continuité. Et elle lit des articles scientifiques, alors elle lit ce qu'on appelle les grands articles de l'anthropocène, voilà, dans les revues Nature, Science, etc. Et puis là, elle découvre que les savoirs sont organisés et animés par une autre logique qui est celle de la rupture. Demain ne sera pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Voilà. Il y a des franchissements de seuil, des effets dominos, des emballements, des boucles de rétroaction, etc., qui nous lui ont permis de comprendre scientifiquement, d'entrer dans la compréhension des systèmes complexes, et puis d'intégrer cette différenciation à un moment donné de ce qui anime les savoirs scientifiques. Alors là, on est en... Je continue ou parce que je suis parti sur ma lancée là, mais
tu peux totalement continuer, tout va bien.
C'est sympa. Alors là, on est fin août 2018. Notre Greta Thunberg, elle prend un petit bout de carton et puis elle se dit, je fais la grève. Fais la grève de quoi? De l'école. Ça, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu auparavant, quoi. Donc elle écrit sur son petit bout de carton qu'elle fait la grève de l'école et elle va s'installer sur les marches du Parlement suédois. Donc en fait, elle a compris quoi? Elle a compris pas mal de choses. Ce qui différencie le corpus des savoirs scientifiques du corpus des savoirs scolaires, elle a compris que le responsable de cette différenciation et de cette non-intégration des paradigmes scientifiques dans les savoirs scolaires, ben, c'était le pouvoir politique. Et donc, elle va positionner ça devant le Parlement. Donc, elle a compris que l'école était politique. Évidemment, les enseignants, ils le savent parce qu'ils reçoivent les directives du ministre, etc. Mais les élèves, en général, ils ne le savent pas, ça, parce qu'on intègre plutôt que bah, pas de politique à l'école. Donc, on a plutôt l'image, à un moment donné, d'une école politiquement neutre. Et tout enseignant le sait très, très bien. Si jamais il fait de la politique à l'école, il fait une faute professionnelle grave. Et c'est ce qui fait que les enseignants, il y a tout un tas de tribunes qui sortent ces temps-ci où ils disent « mais il faut qu'on sorte de notre devoir de réserve parce qu'on n'arrive pas à être objectif. On a une espèce de neutralité politique imposée et qui nous entrave. »
Qui du coup n'est pas une neutralité, quoi. Pardon ? Qui du coup n'est pas une neutralité.
Et du coup, qui entrave le travail d'objectivation. Et donc, du coup, on est à l'ouest. Voilà. Et on transmet un monde qui n'est pas. Voilà. On transmet une mythologie. Une mythologie, à nouveau, qui est une mythologie de la continuité dont le pouvoir politique et économique, de fait, ont impérativement besoin, parce que c'est là-dessus que s'encastre et se greffe l'idéologie, le paradigme, la fable de la croissance, et de la croissance comme bonne et comme nécessaire. Et bon, voilà, et après, bon, notre Greta Thunberg, là, si on en revient en 2018, hop, il y a 2-3 journalistes qui sont passés devant le Parlement suédois, ils se sont rendus compte qu'elle en avait sous la semelle, et puis derrière, ça a été le grand mouvement des lycéens et étudiants grévistes pour le climat, quoi.
Alors justement, on va parler des différents discours, parce que c'est tout le sujet de ton livre, en fait. C'est qui va sauver la planète ? Question qu'on se pose tous, si tant est qu'elle soit sauvable. Mais bon, moi, je crois que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. La problématique, elle est plutôt autour du vivant. Ça,
oui, tout à fait.
C'est une question rhétorique, mais...
et bien sûr, sur qui sauvera la planète, et puis du coup, de fait, je le précise bien dans l'introduction, c'est-à-dire que... on prend la planète. Bon, comment fonctionne la planète ? La planète, c'est un système, ce qu'on appelle le système Terre. C'est un système complexe. Pour le simplifier, pour le réduire, on peut se dire, c'est la conjonction du système climatique, de la biosphère, des sociétés humaines. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Il y a les océans, la cryosphère, l'atmosphère, etc. Mais à un moment donné, on peut se dire tout simplement climat, biosphère, société. Et ça nous permet de comprendre, quand on a compris la dynamique qui relie ces trois ensembles, ben on a compris ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on appelle l'époque de l'Anthropocène, qui est caractérisée justement par une transformation des relations entre climat, biosphère et société. Et ben, si on dit planète égale climat, biosphère, société, équation simplifiée bien sûr, ben, y a société, il y a humain. Donc, à la question qui sauvera la planète, bien sûr, nous sommes complètement partie intégrante de cette planète. Et donc, la question, on peut dire, mais qui va nous sauver ? Même si, bien sûr, la planète va survivre à un arrêt, à une disparition de l'aventure humaine. Bien sûr, la planète préexiste à l'aventure humaine et elle lui succédera. Ça, c'est une évidence. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on en fait partie. Et aujourd'hui, nous sommes la Terre. Nous sommes la Terre avec les arbres, avec les animaux, avec l'atmosphère, avec etc.
Important de le mentionner. Donc, tu parles sur 6 grands récits. Et en fait, j'aimerais bien qu'on les traverse parce que je trouve que c'est... Déjà, dans le bouquin, c'est hyper agréable à lire parce que tu prends des vrais personnages, en fait, qui ont des idées sur l'écologie. Et alors, le premier... Je les connais pas par cœur, donc j'ouvre le bouquin. Mais c'est le climato-sceptisme. Donc, le climato-sceptisme, j'imagine qu'il y a... quand je le vois autour de moi, je pense qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est pas qu'ils y croient pas. C'est juste qu'ils disent, oui, bon, c'est pour plus tard, on verra. Ou ils croient pas que c'est vraiment l'impact de l'humain, etc., etc. Tu peux nous parler de ce récit-là ?
Ouais. Je vais bien faire comme un petit détour avant d'arriver sur le
fait des détours. Hein, voilà.
les années précédentes, j'avais travaillé à essayer de différencier ce qui est de ce qui n'est pas au niveau biogéophysique. Et donc, de travailler sur le corpus des savoirs scientifiques. Et puis, on entend tellement de bullshit, on peut dire, sur les questions environnementales, etc., que pour moi, c'était nécessaire de faire ce travail-là, à commencer pour moi-même, en fait, de me dire, mais bon, alors, l'état des lieux environnementaux, quel est-il ? Quel est-il en m'appuyant sur les savoirs scientifiques ? Et bon, voilà, pour aussi, à un moment donné, pouvoir dire, ben non, ça, c'est faux, voilà, ça c'est une information mensongère. Et puis, après, en fait, je me suis rendu compte, après avoir fait ce travail, avoir bossé des années là-dessus, je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible. En fait, la vie sociale et politique, elle n'est pas organisée à partir de ce qu'on sait, elle est organisée à partir de ce qu'on croit, qui n'a souvent rien à voir avec ce qu'on sait. Et, et la vie sociale et politique, elle est organisée à partir de ce qu'on raconte, voilà. Et donc du coup, il s'agissait pour moi là dans ce livre là, ben d'aller regarder ce qu'on raconte et pour voir à un moment donné toutes les conneries qu'on raconte et pouvoir juger ce qu'on raconte, mais juger pour donc juger vraiment et donc quand je dis juger ce qu'on raconte, c'est-à-dire juger la politique. À chaque fois que je parle de raconter, etc., c'est les récits politiques, des récits qui nous traversent en fait, desquels on est parfois le relais ou des responsables politiques, des responsables économiques, etc., mais qui sont en fait des grands récits, on va dire des petits récits parce que ils fleurissent sur les ruines du récit du progrès, voilà, qui de fait s'estompe, mais en fait de nouveaux récits émergent.
On va envoyer l'épisode à Cyril Hanouna. Parce que lui, en termes d'invention de récits, il se place là quand même.
et du coup, moi je me suis dit, mais alors, juger et différencier les faits scientifiques, ce qui est de ce qui n'est pas, oui, là ça va. Ça va, on a ce qu'il faut. Mais alors, pour juger, à un moment donné, la politique, il nous faut des critères. Alors, quels sont les critères ? Et là, du coup, j'ai pris deux critères et deux critères qui vont me servir pour juger chacun des récits et pour dire tout simplement, ben non, en fait, là, je suis absolument pas d'accord. Et c'est pas juste une question de sensibilité de ma part. À un moment donné, ben, je serais politisé de telle façon, de telle autre, ou je sais pas quoi. Non, j'ai des critères là qui me permettent de dire, non, ça va pas. Là, on va dans le mur avec ce récit-là. Et donc, les deux critères sont les suivants. Le premier, c'est le corpus des connaissances. L'état des lieux scientifiques, international et pluridisciplinaire sur le dérèglement bioclimatique actuel. Voilà. Qui est, comme le dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, une question de vie ou de mort, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Enfin, et de vie ou de mort, ou de vie et de mort aujourd'hui. Voilà. Et de mort aujourd'hui, pas juste à l'autre bout du monde, machin, etc., mais qui concerne aussi le territoire ici, en France, nationale, dans les années dans lesquelles on est en ce moment.
Il y a eu plus de 10 000 morts du climat là cet été en France, hein, si je ne me trompe pas trop.
Et puis, de fait, et c'est... très peu par rapport à ce qui s'annonce, par rapport à la façon dont petit à petit des sécheresses, les sécheresses que nous avons connues, se sédimentent, fragilisent à un moment donné les rendements agricoles qui baissent et puis vient fragiliser en fait ni plus ni moins la sécurité alimentaire mondiale, l'accès à l'eau, mais l'accès à l'eau aussi pour des personnes qui vivent voilà en métropole, voilà. Et puis, bien évidemment, avec des situations absolument catastrophiques aux quatre coins du monde dès à présent. Et puis, le deuxième critère, c'est parce que si on prend uniquement le critère de ce qui est vrai, de ce qui est faux au niveau environnemental, bah, à la limite, on pourrait se dire, à partir du moment où c'est juste d'un point de vue environnemental, ça passe, en fait, ça va. Donc, moi, par exemple, je pourrais inventer la guillotine à riches. Voilà, en me disant, bah, de fait, c'est les riches qui ont une empreinte environnementale la plus conséquente.
Donc, on enlève tous les Européens.
Mais voilà.
On enlève le problème. Et les Américains.
Tous les smicards français, ils passent, en fait, à la guillotine à riches. Juste que ce soit clair. C'est-à-dire, oui. Parce que, de fait, l'empreinte environnementale est au-delà de ce que la planète peut supporter. Bon, bah, vous voyez bien, on rentre dans un truc complètement glauque. C'est insupportable. C'est pas possible de prendre les choses comme ça. Il faut un autre critère.
C'est assez drôle parce que, généralement, on a tendance à reporter la faute sur... les Africains, les Indiens, les Chinois qui font beaucoup d'enfants et qui sont très nombreux. Mais en fait, on ne veut pas accepter que la faute, elle est chez nous. C'est-à-dire que je crois que le calcul, il a été fait. En fait, empreinte carbone accumulée africaine, etc., c'est 11%. Donc, le reste, c'est l'Europe, les États-Unis, voilà. Et donc, le Japon, évidemment, la Corée du Sud. Donc, le problème, il est chez nous, hein. Il est pas...
Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Et dès qu'on aborde le débat en disant, mais est-ce qu'il faut pas baisser la natalité, etc., qui est, voilà, arrêter de faire des enfants. Alors, à la fois, je comprends complètement un jeune qui peut se dire ça et qui a un avenir noir devant lui et qui a peur en fait d'envoyer dans le monde à un moment donné de faire naître dans un monde mauvais, voilà. Bon, ça se comprend, puis ça se comprend complètement. Par contre, il me semble vraiment important de dire que ça n'est pas la solution d'un point de vue environnemental et écologique, d'une part, que d'autre part on va pas renoncer au combat de changer le monde profondément et en profondeur pour que le monde soit viable, hospitalier, agréable, durablement humain, voilà, plus juste, plus solidaire, et nous retirer du monde, en fait, voilà, pour moi en tout cas, n'est pas la solution, mais bien au contraire, bon. Et du coup, le deuxième critère pour moi, c'est la démocratie. Voilà. Qu'est-ce qui va consolider la démocratie ou qu'est-ce qui, au contraire, va fragiliser la démocratie? Et puis, bon, c'est à partir de ces deux critères que, du coup, je suis rentré dans les différents récits.
Donc, le premier, donc, voilà. Et j'aime bien parce qu'en fait, tu parles de Prométhée et tu parles pas de Dionysos, mais tu parles de post-Prométhée. En général, enfin, en tout cas, si je me réfère à Maffezoli, entre autres, ça, lui parle de Prométhée et donc de Dionysos, qui serait le post-Prométhée, donc post-modernisme. Finalement, c'est ça, un modernisme prométhéen, jupitérien, pour prendre des termes qui sont utilisés dans le langage médiatique français. Donc, le truc qui vient d'en haut, très descendant. Donc, j'ai la connaissance, j'ai le pouvoir, etc. Et puis, Prométhée qui vient du bas, qui vient de la puissance, etc. etc. Donc, le premier, c'est le climato-sceptique. Alors, c'est quoi le récit des climato-sceptiques?
Alors, c'est le grand récit qui a gagné, en fait, voilà, qui a été victorieux de ces 10 dernières années. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça le fait un peu moins de se positionner comme ouvertement climato-sceptique, dire « mais non, mais ne vous inquiétez pas, je sais pas quoi, tout ira
bien ».
Voilà, voilà. De fait, ce ne sont pas les activités humaines qui sont au centre du dérèglement climatique actuel, etc. À un moment donné, ça permettait d'être invité sur les plateaux télé. Aujourd'hui, on continue d'inviter des grandes figures comme ça, rassuristes, etc., technosolutionnistes. Mais voilà, ça s'est un petit peu transformé, disons.
Et puis, tu as des Mark Lesguy, des Enthoven qui se positionnent sur Twitter très fort.
Bien sûr, bien sûr. Et je les ai pas épinglés. Je les ai pas épargnés, je veux dire, Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi en contexte français, dans une figure vraiment d'un intellectuel qui tient vraiment bien la route, qui est Luc Ferry, par exemple. Luc Ferry qui écrit un bouquin, Les 7 écologies. Un bouquin où il se veut éco-moderniste et puis voilà, il dénonce et il critique à un moment donné la radicalisation de certains positionnements politiques écologiques, quoi, voilà. Ce qui peut se comprendre, mais par contre il n'a pas fait l'effort de lire les articles scientifiques de ceux qui les ont lus et puis qui de fait sont alarmés, sont bousculés, sont bouleversés en fait. Et derrière, il rejette voilà, ce type de positionnement trop radical à son goût pour proposer quelque chose d'un techno-modernisme, etc. Mais dans le fond, à un moment donné, il y a quelque chose d'une non-connaissance du savoir climatique. Et donc, il y a quelque chose d'un déni. À un moment donné, il ne nie pas du tout le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, mais de fait, il n'en a pas conscience d'un point de vue factuel et scientifique. Moi, ce que je peux dire, et puis enfin, on va reboucler là sur la question du récit climato-sceptique. Moi, j'ai eu un moment où je n'arrivais pas à démêler le vrai, du faux, le politique, du scientifique, etc. Et j'étais comme mes oreilles étaient heurtées par les militants, les lanceurs d'alerte, toutes celles et ceux qui criaient. Et moi, quand on me crie dans les oreilles, je me bouche les oreilles. Enfin, voilà, j'ai plein de calme.
C'est le cas de beaucoup de gens.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, j'ai eu besoin d'en revenir au savoir scientifique et de lire, et de ne lire que des articles scientifiques. Et j'ai, pendant une année, j'ai lu comme ça, tous les soirs, voilà, des articles. Et j'en ai lu quelques dizaines, et après quelques centaines. Et en une année, j'en ai lu un gros millier. Donc ça a fait à peu près 10 000 pages que j'avais annotées, griffonnées, etc. Et qui, après une année de lecture, m'attendaient sur ma table de travail, quoi. Cette année, moi, ça m'a détruit. Ça m'a mis à terre. C'est-à-dire, j'ai découvert des savoirs dont j'ignorais l'existence. Parce que, de fait, on l'a dit, ils ne m'ont pas été transmis, en fait, à l'école. Et ça a eu sur moi un effet de déflagration. Donc ça, c'est important aussi, quand on entend des militants qui crient un peu trop fort, il faut se dire aussi, il y a derrière, il y a une expérience, en fait. Une expérience d'acquisition de savoir. De façon un peu sauvage, alors sauvage entre guillemets, c'est-à-dire de façon non institutionnalisée souvent, alors dans des circuits militants, par des podcasteurs, etc. Bon, voilà. Mais qui peuvent générer un effet à un moment donné choc qui fait qu'à un moment donné on a besoin de crier, quoi, de crier sa douleur, de crier son inquiétude. Bon. On en revient au climato-scepticisme, ouais, ouais, ouais. Ça va, ouais, je...
Tout va bien, tout va bien, okay, tout va bien, t'inquiète pas, tout est cool. On peut revenir au climato-scepticisme.
Et donc, du coup, le climato-scepticisme...
Qui ne doivent pas lire les revues scientifiques de
fait. Et donc, le climato-scepticisme, il agit un peu comme une pieuvre, avec des tentacules qui nous tiennent, en fait, par différents bouts, etc. Donc, par la faible dimension des savoirs scolaires, par, à un moment donné, un système médiatique qui a donné la parole à un Claude Allègre, par exemple, voilà, qui a une grosse résonance... qui était voilà un scientifique qui a eu qui a été reconnu aussi par ses pairs à un moment donné dans un domaine spécifique et puis qui a commencé à parler et puis à raconter des choses qui de fait étaient tout simplement fausses, mais il les a racontées avec tellement de fougue, de véhémence, etc. Bah qui créait le chou, quoi.
Il met le doute à défaut.
Et il sème le doute parce que c'est causé. Il a des termes qu'on comprend pas. Voilà, il y a ouais tout à fait, tout à fait. Après, il y a aussi les pétroliers américains qui ont mis des millions, des dizaines de millions de dollars.
Une empreinte carbone individuelle.
Voilà, ouais. Et puis pour distiller le doute, voilà, ça a été un business en fait pour eux. Donc voilà, différentes choses qui font qu'on a été tenu pendant longtemps. On ne sait pas vraiment, on n'est pas vraiment sûr. Et dans quelque part, attendons de voir.
Et puis quelque part, c'est réconfortant le climato-scepticisme. Parce que, je parle pour moi, mais tu vois, mon bouquin, il s'appelle « Comment je peux changer sans rien sacrifier ?» En fait, on n'a pas vraiment envie de sacrifier notre qualité de vie.
Oui, tout à fait.
Notre bien-vivre. Moi, j'ai tendance à différencier le bien-vivre du bien-être. Mais on est dans un bien-vivre absolu.
Ouais.
Et tu vois, tu peux manger des sushis à n'importe quelle heure tu peux manger ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, fondamentalement, t'as pas envie d'entendre, quand le climato-scepticisme, c'est comme ça qui est agréable. Je veux dire, rouler avec le gros 4x4, t'as pas envie d'abandonner ça, en fait. Il y a plein de gens qui ont envie de l'abandonner aujourd'hui, qui ça fait plus du tout de sens, bien sûr. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de l'abandonner parce que le 4x4, t'es en hauteur, t'es en sécurité, c'est confortable. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas de 4x4, mais j'imagine le truc, quoi. J'ai un vélo. c'est déjà pas mal, un vélo pliant. Mais bon, j'ai une moto aussi. Je vois le vélo devant moi, donc voilà. Donc il y a ça aussi, c'est réconfortant finalement, le climato-scepticisme.
Ben bien sûr, en tout cas, ça permet de ne pas quitter ce qu'on a. Ça, c'est clair et net. C'est un discours qui a pour finalité l'inaction politique, climatique, etc. C'est-à-dire de permettre au monde tel qu'il est de demeurer encore un peu jusqu'à ce que le réel biogéophysique se rappelle à nous avec force et fracas et entrave à un moment donné ce qui pour l'instant continue de tenir voilà bon gré mal gré quoi. Et après ce qu'il faut bien identifier aussi c'est que Il y a aussi le climato-scepticisme, mais pas simplement. Enfin, il peut prendre la forme comme ça du petit doute qu'on a en tête et qui fait que, bon, ne sachant pas exactement le vrai du faux, on continue notre existence telle qu'elle est. Ce petit doute-là, il a été aussi sciemment, patiemment et méthodiquement distillé. Et distillé par des puissances financières, au premier rang desquelles, bien sûr, les pétroliers, et au premier rang desquels, les pétroliers américains, mais pas uniquement. On l'a entendu beaucoup, là, ces dernières semaines, hein. Et puis ces derniers mois aussi, avec un article très, très marquant qui avait été publié avec Total, voilà, qui avait connaissance de l'impact des émissions, enfin, de la combustion du pétrole, etc., et qui a organisé la riposte de façon très, très méthodique.
Et alors, toujours dans cette logique prométhéenne, donc prométhéenne, c'est le progrès, j'expliquais un tout petit peu tout à l'heure, peut-être que tu peux expliquer ce que Prométhée, enfin, tout le mythe autour de Prométhée, le grand récit autour de Prométhée, mais le deuxième récit pour toi, c'est la productivité, il y a un peu de croissance verte là-dedans, c'est un peu le modèle chinois, quoi, quelque part.
Oui. Alors, donc, pour moi, tous ces récits prométhéens, ils poursuivent la recherche de puissance sur fond de transgression, en fait. Voilà. C'est le mythe de Prométhée qui vole le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Et feu qui est ensuite le moteur du déploiement des arts, des techniques, etc., et qui est à l'origine de l'émergence des grandes civilisations, mais qui repose sur un vol, voilà. Et donc, de fait, quand on parle d'une dynamique prométhéenne, ça va renvoyer justement à l'importance de la recherche de puissance, voilà, sur fond de transgression, quelles que soient les limites qui seraient à transgresser. Alors, le deuxième grand récit, ça va être moi je l'entends régulièrement de la part d'étudiants qui, quand on parle des questions environnementales, se disent mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature et d'une petite dictature verte à la chinoise? Parce que de fait, la Chine symbolise à un moment donné un pouvoir fort autoritaire qui, bien sûr, est le pays le plus pollueur au monde, le premier pollueur de la planète, du fait du nombre d'habitants, hein, qu'il ne l'est pas par habitant, mais qu'il l'est.
Qui est aussi du fait de nous, enfin, occidentaux, qui avons externalisé notre pollution.
Bien sûr.
Ah, un peu.
Et puis, qui se positionne comme leader sur le marché du durable, etc. Alors, durable qui continue d'altérer la planète, hein, sur le fait de vendre du durable, à un moment donné, c'est organiser une circulation de matière et d'énergie, etc., qui génère une empreinte environnementale, mais qui a pour objectif de faire émerger une grande civilisation verte. Et une civilisation verte qui a au cœur, à un moment donné, comme pouvoir, non pas un pouvoir démocratique, mais un pouvoir autocratique, dictatorial, voilà, où il s'agit de renoncer à nos libertés publiques au bénéfice de quelques-uns supposément éclairés qui nous permettraient de traverser les sombres temps qui s'ouvrent à nous. Voilà, et donc le récit chinois exemplifie bien l'autoritarisme vert, écolo, environnemental, etc. Et cette tentation que parfois on peut avoir ou on peut entendre de dire mais la démocratie va pas y arriver, il faut sortir du régime démocratique, quoi. Bon, et alors du coup, en regardant d'un peu plus près, quoi, ce récit-là, en se disant, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon à prendre là-dedans? Moi, je crois, pour faire simple, mais qu'il n'y a rien à prendre, et qu'en fait, un pouvoir fort, il ne poursuit pas d'autre objectif que de se maintenir en place. Voilà. Et donc, il ne peut pas être centré sur autre chose que lui-même. Donc, il ne peut pas être centré sur l'avenir, il ne peut pas être centré, à un moment donné, sur permettre à l'aventure humaine dans son ensemble, c'est-à-dire par-delà ses propres frontières nationales, de durer, en fait. Voilà. Il a besoin d'asseoir sa suprématie sur son peuple, c'est ça qui lui permet d'exister. Donc, je ne pense pas, et quand on regarde l'exemple chinois, on voit combien tout est organisé et centré autour du Parti communiste chinois et pas d'abord et avant tout autour d'une civilisation à faire émerger qui serait verte.
Donc ce modèle-là, on le met de côté.
Ouais, en tout cas, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, en tout cas. Et non, je le redoute, ouais, bien sûr.
Ensuite, il y a beaucoup de personnes, alors moi, j'en connais plein, pour le coup, parce que je viens du monde de la tech. qui pensent que d'une manière ou d'une autre, la technologie va nous sauver. J'ai même fait une conférence sur le sujet à un moment donné, parce qu'on m'avait posé la question. Et moi, j'ai beau être technophile et bien connaître la techno, je sais bien à quel point la technologie va pas nous sauver, parce qu'en fait, enfin, pour plein de raisons, mais je te laisse en parler de cette croyance, toi que tu associes à la Californie, parce que Silicon Valley, mais c'est vrai qu'il y a cette croyance qu'on va pouvoir continuer à vivre de la même manière parce que les technologies, les smart grids, je sais pas, les panneaux solaires, je sais pas, le mouvement des marées, les vagues, on va générer de l'énergie verte et les technologies vont nous permettre de mieux distribuer le tout et donc du coup ben on n'aura pas besoin en fait de faire d'efforts.
Alors ce récit, je l'appelle la religion californienne. Religion, pourquoi? Ben parce que donc tu allais regarder en fait quelques textes particulièrement comment dire, représentatifs de ce récit californien, de ce récit.
On y a vu sur Mars.
Pardon?
On y a vu sur Mars.
Oui, voilà, oui, voilà. Alors, on a des gars là qui sont absolument fabuleux, hein. Elon Musk, Jeff Bezos. Alors, si on attaque d'emblée par Elon Musk, par exemple, donc, bah oui, de fait, c'est installer une colonie sur Mars, etc. Il nous explique que vraiment, compte tenu de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, lui, il voit pas de meilleures alternatives que de fusionner avec elle. Voilà, tout simplement. Et puis, on a un gars comme Jeff Bezos qui nous raconte que, lui, l'avenir tel qu'il le vit... C'est pas des blagues, hein, ce que je raconte en plus. Non, non, mais je fais bien, là, il a fumé la moquette ou quoi, là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je raconte des trucs que Jeff Bezos a dites. Ou à un moment donné, il imagine une aventure humaine, voilà, intergalactique, là, enfin, qui se déplacerait dans des espèces de grands containers qui contiendraient 1 million de personnes, et puis qui se déplacerait comme ça à travers les différents systèmes solaires.
Il a regardé trop de films un peu.
et il nous raconte qu'il veut de cette façon, en démultipliant l'aventure humaine, qu'émergent 1000 Mozart, 1000 de Vinci. Bon. Uh-huh. Et ben, moi j'ai envie de dire, hey, les gars, vous, ça a vrillé quoi dans le ciboulot quoi. Vous êtes gravement partis en vrille.
Moi, ce qui m'étonne, je sais pas si tous les gens qui nous écoutent l'ont vu, ce modèle de ville que t'as peut-être vu sous cloche. Alors, je sais plus précisément le pays. Est-ce que c'est Abu Dhabi ou... Mais ils ont créé une ville sous cloche qui va naître. Hein, je veux dire, ils ont créé une ville totalement sous cloche. Et en fait, c'est bizarre parce que quand tu regardes le projet. Ça donne envie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement comme dans les films de science-fiction. Tu vois ce truc, donc, qui est une énorme cloche, très grande, où il y a des millions de personnes qui vivent dedans, et tout est green, t'as des piscines, t'as des arbres, limite t'as les oiseaux. Enfin, voilà, c'est un écosystème fermé, petit, à la taille de la planète, voilà. Et c'est vrai que ça donne envie, parce que quand tu vois les images, tu fais putain, bah ouais, ça a l'air super leur truc. Et en même temps, tu te dis, mais what the fuck, quoi. C'est sûr que ça marche pas. mais ce qui est fou, c'est que ça va sortir de terre, ça, par contre. Ils ont mis des milliards, je sais plus exactement combien, mais c'est dingue.
Ouais. Alors, concernant Elon Musk et Jeff Bezos, et tout particulièrement là, en l'occurrence à Jeff Bezos, je sais pas si c'est dû à un partage en vrille ou si c'est au contraire un très bon discours commercial qui est bien rodé, où il montre quelque chose de particulièrement visionnaire pour aussi se positionner en fait comme le gars signifiant, matérialisant le futur par excellence en fait, voilà, et puis son ambition et son envergure, etc. Donc à cet endroit-là, c'est difficile de savoir. Par contre, ce qu'on peut dire, et puis alors il y a d'autres textes, il y a le manifeste éco-moderniste, voilà, de rédigé en Californie, qui signifie en fait combien un futur peut être grand, peut être à l'époque de l'Anthropocène, un grand Anthropocène peut advenir, et au sein duquel on puisse vivre tout en continuant une logique productiviste en fait. Voilà, c'est ça le grand truc. Alors, dans le fond, moi, le paradoxe de ce récit, c'est on va poursuivre la libéralisation du marché pour que émergent des disruptions techniques qui nous retirent de l'ornière dans laquelle les disruptions techniques résultant de la libéralisation du marché nous ont mises. Et donc, du coup, on a l'impression, on se dit, mais il y a un endroit où c'est pas cohérent, ce truc. C'est-à-dire que l'ampleur de l'altération environnementale, c'est la résultante du rapport médié par la technique que nous avons à la Terre, à notre environnement, etc. Donc du coup, voilà, il y a un endroit où, pour moi, le discours ne peut pas tenir sans une foi, et une foi dans le progrès et le salut qu'il nous propose. Alors, moi, je veux dire, je ne suis pas technophobe, c'est-à-dire que là, notre échange, il est médié par la technique, on est dans un espace anthropisé, on n'est pas dehors, c'est ce qui fait qu'on peut...
On est dans un petit appartement à Paris, je vous
Voilà, voilà, il pleut dehors, mais on peut parler tranquillement, etc. Donc voilà, tout ça, de fait, ça rend possible un échange, une rencontre, et puis une transmission et circulation du savoir. Donc ça, c'est super. Par contre, de faire croire que un changement des modes de vie n'est pas possible, enfin comment dire, de faire croire que nous n'avons pas besoin de changer radicalement nos modes de vie, au prétexte que des prouesses techniques vont émerger, et ça c'est un positionnement, par exemple, c'est un positionnement très fort de Laurent Alexandre, qui se positionne vraiment de cette façon en disant mais des choses vont advenir, et en fait il n'argumente rien. Il y a un petit bouquin par exemple qui s'appelle Jouissez jeunesse, voilà, la seule chose qu'il transmet comme ça à la jeunesse, c'est jouissez et non pas soyez responsable de votre vie, des autres, du monde, etc. Jouissez en disant mais ne vous inquiétez pas, nous en avons vu d'autres, l'aventure humaine, et des miracles vont advenir, quoi.
Et d'ailleurs le quatrième récit, donc, qui pour le coup est post-prométhéen, c'est l'impact des individus, c'est ça en fait, en gros.
Tout à fait, c'est-à-dire que là, on est dans un autre... Donc, en fait, on fait des sauts comme ça d'univers en univers, hein, l'univers du mensonge, l'univers, à un moment donné, de l'autoritarisme, l'univers de la technique, et puis hop, le quatrième récit, on est sur quelque chose alors qui est délicat à saisir, c'est le récit Bisounours. Et puis au début, j'ai travaillé avec Bisounours, puis à un moment donné, en fait, non, Bisounours, mais pas que, serait peut-être plus juste pour signifier ce récit. Ce récit, il postule ou il raconte la chose suivante. Nous devons changer nos modes de vie individuels, nos habitudes de consommation, chacun, chaque citoyen, nous sommes d'abord et avant tout un consommateur qui, s'il change sa consommation, ça va permettre à un moment donné de sauver la planète. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que, oui, bien sûr, on a besoin de changer nos modes de vie, c'est clair et net. Voilà. Et donc ça suppose à un moment donné, de fait, des changements à l'échelle individuelle.
Oui, bien sûr, oui.
Et donc, il ne s'agit pas de balayer d'un revers de la main. Par contre, il s'agit juste de voir ce qui se passe quand on dépolitise de cette façon les questions environnementales. C'est-à-dire, quand à un moment donné, mais on les dépolitise, c'est une résultante du non-investissement par les politiques publiques des questions environnementales. C'est-à-dire, en fait, c'est une réponse existentielle de citoyens face à l'ampleur de l'inaction politique, de dire, moi, je fais ma part. Voilà. Je fais ma part en arrêtant de consommer de la viande ou en réduisant la consommation de viande, en prenant le vélo, etc., etc. Et là, on a une étude qui est assez intéressante, qui a été réalisée par Carbone 4, l'agence de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, donc c'est deux consultants de cette agence qui réalisent cette étude, faire sa part. Et en gros, ils nous expliquent la chose suivante. Ils nous disent, imaginons que 100% des Français adoptent une attitude héroïque au niveau environnemental. À savoir, on devient végétarien, tous les trajets en deçà de 10 km sont effectués à vélo ou à pied, on achète ses habits uniquement en friperie, on consomme uniquement local, on change les ampoules de son appartement pour mettre des LED, on baisse le chauffage de son appartement. Voilà, ils n'ont pas dit on met un col roulé tricoté par mamie comme le gouvernement nous y a encouragé. Ça, c'est juste la petite blague. Honnêtement, le 20 septembre, 20 degrés dehors, tout le monde est en short et en t-shirt et on voit défiler sur les plateaux de télé des membres du gouvernement avec des cols roulés tricotés par mamie. Ça, c'était quand même assez chou. C'était vraiment... c'était très pittoresque, mais profondément pitoyable. voilà. Et donc là, ils jouent à un moment donné sur cette corde-là, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on adopte tous ce comportement héroïque par rapport aux questions environnementales? on fait 25% du chemin par rapport à l'atteinte des objectifs de décarbonation de Paris dans le cadre des accords de la COP 21.
Ce qui est un peu décourageant quand tu le dis comme ça.
Donc, c'est hors investissement. C'est-à-dire, évidemment, si on investit, on peut isoler les logements, etc., mais dans les comportements héroïques hors investissement. Et après, ils précisent tout de suite, les deux rédacteurs de l'étude, Soyeux et Dugast, ils précisent en disant, mais bien sûr, tout le monde ne va pas devenir végétarien comme ça, en un claquement de doigts. Après, ça poserait encore d'autres problèmes par ailleurs. Et donc ils disent, bah voilà, réalistement, on peut imaginer que en adoptant des attitudes héroïques de façon vraiment massive, on pourrait arriver à faire 10% du chemin. Bah il reste 90. Les 10%, bien sûr, il faut les faire, personne d'autre les fera à notre place. Il reste 90. 90, justement, c'est la part absolument nécessaire des politiques publiques dans des données structurelles où ça soit positionné dans du dur et pas dans, allez, on vous demande s'il vous plaît d'être sobre, mais non, dans quelque chose d'impératif, quoi.
Mais là, tu sautes au sixième récit, si je ne me trompe pas.
Voilà, tout à fait.
Et en fait, entre les deux, il y en a...
Entre
les deux, il y en a un cinquième.
C'est le plus important.
Qui n'est pas si loin, finalement, de la croyance technophile. Parce que ce que tu dis, c'est en fait, on peut continuer à vivre de la même manière tout en réduisant l'impact. C'est ça, bon, ce qui est un peu fou, mais bon, dans l'absolu...
En gros, bon... Ce récit, c'est le récit de nos gouvernements. Voilà. C'est le récit d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, voilà. Il l'incarne vraiment magnifiquement.
Mais il y croit, hein, je crois.
Ça, je sais pas.
J'ai l'impression qu'il y croit. Parce qu'il avait annoncé un quinquennat écologique. Je sais pas. J'imagine que c'est la manière dont il l'envisage.
Alors, ce que je constate surtout, c'est à un moment donné, il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait.
Ah,
voilà.
Ça, c'est un peu le problème.
Et donc, c'est ce qui fait que ce récit, pour moi, l'adjectif qualificatif vraiment qui s'impose pour ce récit, c'est un récit pervers. Et là, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, c'est clair et net, c'est pervers.
Est-ce que c'est pervers narcissique.
En tout cas, pour moi, je me suis appuyé beaucoup sur un livre de Dany Robert Dufour qui s'appelle Baise ton prochain, un livre qui est absolument exceptionnel, vraiment lumineux en fait, pour comprendre les ressorts profonds du capitalisme. Et ça, il le met, il écrit en plus vraiment très bien, il le met très bien à jour, et il met en évidence la figure du pervers social. Pas forcément du pervers psychologique, mais du pervers social. Et c'est ce qu'on voit magnifiquement à l'œuvre dans ce cinquième récit. Alors, ce cinquième récit, c'est quoi ? Moi, par exemple, à un moment donné, je suis allé sur le site du ministère de la Transition écologique. J'ai téléchargé tout un tas de rapports. On trouve plein de trucs, en fait. Donc, je les ai téléchargés, je les ai imprimés, puis j'ai pris mes petits stylos et tout, et je les ai lus, et je les ai décortiqués. Puis, au début, je me suis dit, bah tiens, ouais, c'est pas mal. Ils disent, on peut pas leur reprocher de nous mentir. Ils disent tout un tas de trucs, il y a des chiffres, voilà. Et puis, honnêtement, ça me faisait rien de lire ces rapports. Là où, comme ce que je disais avant, de lire des articles scientifiques, ça me fait une flèche en plein cœur, quoi. Vraiment, ça me fait quelque chose. Je me dis, c'est pas possible. Voilà. Je prends conscience de quelque chose. Je comprends quelque chose. Et ça me met face à la gravité de la situation. Là, honnêtement, que dalle. Ouais. Et je me suis dit, tiens, bizarre. Et puis, alors, je continuais de lire, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait comme deux grands absents de ces textes, de ces rapports. Le premier, c'est la dimension systémique. Pas de dimension systémique. Tout est mis à plat, comme sur une carte. Des chiffres qui ne sont pas juxtaposés.
Analysés.
Et on ne nous donne pas les incidences de ces chiffres-là. Et on ne nous explique pas qu'il y a au cœur de ça des franchissements de seuil, etc. On est dans une continuité, dans quelque chose de grave au niveau des chiffres, conséquent, mais qui reste linéaire. Et puis, le deuxième élément, c'est en fait, on parle du territoire national. Très bien, enfin, je comprends, on est en France, enfin, voilà. Mais il n'y a aucune articulation avec l'international et avec l'échelle globale. Donc, en gros, on nous explique que sur le territoire national, en 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement, on a perdu 55% de la population des chauves-souris. Bon, c'est beaucoup, c'est très vite. Mais moi, à titre personnel, je bouffe pas de chauve-souris le matin au petit-déj, en fait.
Et puis, on n'aime pas trop les chauves-souris.
En plus, à la limite, là, je me permets d'épingler ça. Mais à un moment donné, bah, petit-déj, on va manger du pain, on va manger... Il vaut mieux parler à un moment donné de la question des rendements agricoles et puis de la façon dont ça vient de fait fragiliser la sécurité alimentaire mondiale. Mais ça, il y a juste un endroit où j'ai vu cette question de la fragilisation de la sécurité alimentaire mondiale, mais en fait, on plonge pas dedans. On n'est pas conduit à un moment donné au cœur du problème. Donc il y a un jeu, pour nommer les choses, il y a un jeu avec les données scientifiques. Voilà. C'est tout. Et ce jeu, il est malsain. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on ne pourra pas dire vous ne nous avez pas prévenus. Par contre, tout ce que vous nous avez dit aura été faux. Voilà, c'est le grand paradoxe. Et puis après dans ce chapitre-là, je propose différentes situations d'observation en fait qui mettent à jour les rouages de ce récit pervers. L'autre grand truc, c'est la Convention citoyenne pour le climat. C'est un truc, mais on ne peut que applaudir dès demain. C'est fabuleux, on prend.
Ah bah oui.
Prend 150 citoyens tirés au sort, etc. Ils n'y connaissent rien, les pauvres petits. Puis on met de la formation et tout. Puis ils comprennent tout. Et puis de fait, c'est ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec quelques journées de formation dans l'année, bien senti, bien situé, avec un bon rapport au savoir, paf, non seulement ils comprennent les incidences politiques. Et les menaces.
C'est Macron qui aurait dû participer, en fait.
Alors, c'est vrai que de fait, ils ont oublié de l'inviter. Voilà. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire qu'on a affaire à des monstres froids, des personnes qui ne se sont pas laissées impacter, affecter par les savoirs. Et puis après, la traduction par les 150 citoyens, elle est exceptionnelle. C'est une traduction qui demeure démocratique. Il propose de positionner dans la loi, dans du dur, et même dans un amendement du premier article de la Constitution, la nécessité de préserver l'avenir en contenant l'emballement climatique et en ralentissant la dynamique d'effondrement du vivant. Et à un moment donné, on a un jeu de babal entre le Sénat, LR, les Républicains, et puis le gouvernement, La République En Marche. Et puis à un moment donné, le truc est enterré. Ah bah c'est la faute au Sénat, c'est la faute à La République En Marche. Non, bah désolé, on va pas pouvoir amender la Constitution. Au moment où on peut rentrer dans du dur et où quelque chose peut advenir, taxé, enterré. Donc là, il y a eu un jeu, en fait, avec les citoyens qui, au final, a abouti à une dépolitisation des questions environnementales, quoi. Bon, voilà.
En fait, ce qui est assez étonnant, moi, je trouve, avec ce sujet, c'est d'abord, il est traité comme une cause, comme pourrait l'être le féminisme, ou j'en sais rien, l'illettrisme, peu importe la cause. Donc ça, déjà, c'est assez étonnant. Et la deuxième chose qui est assez étonnante, moi, qui me choque à chaque fois, c'est qu'on nous parle toujours de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, on se félicite de la croissance économique, croissance financière. Non, mais ce qui est important, c'est de faire de la croissance. Non, mais vous inquiétez pas, il y aura de la croissance. Non, mais là, il y a de l'inflation, mais il va y avoir de la croissance. Et je dis, mais, enfin, pardon, mais on n'a pas dit que la croissance financière, c'était pas terrible. Enfin, non, parce que... Et en fait, c'est un politique qui m'avait dit ça, et en fait, que les politiques s'étaient coincés entre la croissance et le chômage, et qu'ils ne savaient pas où mettre l'écologie à l'intérieur de ça.
Ah oui, non, mais je suis vraiment d'accord. Et le drame aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, promeuvent une augmentation du pouvoir d'achat. Mais si on prend acte de la situation environnementale contemporaine, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est diminuer le pouvoir d'achat. Bien sûr, diminuer le pouvoir d'achat des très riches, par 100, par 1000, par... Oui, mais aussi diminuer le pouvoir d'achat des plus pauvres. Je parle en France. Parce que de fait, aujourd'hui, la consommation, l'empreinte environnementale, est trop conséquente à tous les niveaux dans la population. Alors, ça veut dire quoi ? On va dire, oh là là, mais c'est qui ce fou et tout ?
Ils sont déjà dans le sens de pauvreté, ouais.
Qui veut paupériser encore plus. Non. Il s'agit d'aller capter les flux financiers là où ils sont pour les transformer dans des infrastructures, dans du dur, dans quelque chose qui reste. Des infrastructures qui permettent à chacun de vivre, de nous nourrir, de
loger,
nous loger,
de se chauffer,
de nous vêtir. Et de nous déplacer, voilà. Voilà. Mais donc du coup, il s'agit de permettre à chacun de vivre plus dignement, mais de fait, avec une sobriété beaucoup plus conséquente. Si on veut demeurer dans le respect des accords de Paris, et puis si on veut contenir l'emballement bioclimatique actuel.
Et on passe au sixième récit.
Ouais. En fait, on y était là.
Ouais, on y était un petit peu, en fait, hein, déjà. Mais qui est comment on transforme les démocraties, finalement. Mais il y a une vraie question, moi, que je me pose parfois. Je me dis, bah, finalement, la démocratie, c'est un modèle qui est assez récent. Est-ce que c'est un bon modèle? Alors, t'as déjà répondu, hein, j'ai bien entendu, c'est le deuxième modèle sur la dictature verte. Mais parfois, tu te dis, bah, finalement, la démocratie, c'est, ouais, c'est, enfin, à part, bon, on peut parler de la démocratie grecque, mais enfin, dans l'absolu, c'est la démocratie, c'est un truc qui date du 20e siècle. Avant, il n'y avait pas trop de démocratie. Et on peut se dire, finalement, sur l'histoire humaine, c'est un modèle qui est quand même, tu vois, qui a très peu d'expérience. Et peut-être que c'est pas le bon modèle. Enfin, et toi, tu crois quand même au rôle du politique, donc.
Moi, ce que je crois, c'est que pour l'instant, l'expérience de la démocratie que nous avons, c'est d'abord et avant tout une liberté. La liberté d'aller venir, la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de maximiser nos intérêts individuels, la liberté de consommer, la liberté, etc. Voilà. Et fondamentalement, La démocratie, aujourd'hui, elle est tenue par cet odieux chantage. Si tu ne... Des plus grandes entreprises à l'égard du pouvoir politique, si tu ne démantèles pas l'État, pièce par pièce, l'hôpital, l'éducation, la justice, etc., je me barre, et hop, tu perds des emplois, et puis je vais aller délocaliser en Pologne, en Égypte, en machin. Voilà. Et donc, en fait, il y a une espèce d'odieux chantage économique à l'égard des responsables politiques. Et du coup, à cet endroit-là, on a l'expérience d'une démocratie qui est une démocratie néolibérale, voilà, où l'État a été démantelé et puis est réduit à sa plus fragile et fragile expression. Il me semble qu'on peut penser... une démocratie, c'est-à-dire où à un moment donné, c'est un collectif qui décide et qui entérine les lois à l'Assemblée nationale, mais que l'ensemble de la démocratie, son expérience comme sa pensée, soit organisée autour des limites où on ne cesse de buter contre des limites, les limites qui peuvent être un quota carbone, empreinte environnementale, je ne sais pas quoi, ou à un moment donné, ah non, on ne peut plus acquérir telle ou telle chose parce qu'on a déjà suffisamment consommé et altéré notre empreinte environnementale et arrivé à son maximum. Voilà. La même chose pour des organisations, pour des entreprises, etc. Parce que là, pour l'instant, on est quand même dans un espèce de truc, si je caricature un peu, tu vas faire tes courses à Super U, puis on te met des pots de Nutella devant toi, puis on te dit, bah, allez, sois cool, ne les prends pas, quoi. Ou on te met des pubs de SUV et tout, et on te montre comment ça doit être trop bien dedans. Puis on dit, bah, quand même, pour des questions écologiques, il faudrait mieux pas acheter le SUV. Mais
c'est hyper pervers.
C'est de l'immense foutage de gueule. Donc, j'ai envie de dire, ne vendons pas des produits dont l'empreinte environnementale est trop conséquente. Basta. Et n'allons pas organiser et vendre du rêve, etc., si à un moment donné, on n'a pas les moyens, si ça ne garantit pas la pérennité de l'aventure humaine, tout simplement. Et donc, tout ça doit être positionné dans du dur, dans la loi. Voilà. Et là, on a aujourd'hui un gouvernement qui joue avec ça, qui joue avec le « s'il vous plaît, soyez sobre », etc., et qui n'ose pas. On a à faire une éclatante impuissance publique d'un gouvernement qui n'arrive pas à légiférer sur l'arrosage des golfs en période de sécheresse, qui n'arrive pas à interdire le recours aux jets privés, un gouvernement qui nous demande de mettre des cols roulés mais qui n'arrive pas à éteindre les panneaux lumineux en ville, un gouvernement qui n'arrive pas à réduire l'écart des salaires de 1 à 5, par exemple. Mais à un moment donné, quand on a déjà un salaire x 5 par rapport au salaire minimal, c'est déjà énorme.
Et voilà. Encore, x 5, t'es gentil. Hein,
mais x 5, c'est déjà énorme. Et ouais, peut-être que x 3, c'est tout à fait suffisant.
Mais déjà, si on était à x 8,
ah oui, ça serait d'accord.
Pas mal. Parce, que, oui, parce qu'en fait, en, la réalité, quand tu voyais, tu parlais de Total tout à l'heure et tu te rends bien compte. En fait, le truc, c'est que pour Total et le CEO de Total, j'arrive même à comprendre son comportement et sa remarque où il dit « mais je ne gagne pas tant que ça, je n'ai pas été augmenté ». Et en fait, je comprends. Je veux dire, lui, ses amis sont aussi les autres patrons du CAC 40 qui, en réalité, génèrent moins de profits que lui. Lui, il gagne moins qu'eux. Donc finalement, il se dit, attends, c'est mignon, ça va. Je veux dire, par rapport aux autres, je suis pas en train d'abuser, quoi. Enfin, finalement, par rapport à mes amis, ouais, tout va bien, ouais. Quoi. Et en fait, le mec a complètement déconnecté que 3 ans auparavant, celle-là, elle était à 500 000 euros, hein, enfin, ou de la personne qui avait son poste. Et donc, du coup, c'était 12 fois moins. Et que là, entre le salaire du premier de cordée, entre guillemets, si on peut reprendre l'expression de notre ami Macron, qui touche, je sais pas combien, les premiers salaires chez Total, mais j'imagine que c'est autour du SMIC, donc 1 500, 1 700 euros, versus 6 millions. On n'est pas sur 1x5. Enfin, 6 millions, c'est à l'année, donc j'exagère un petit peu, parce qu'il faudrait reprendre plutôt 15 000 euros versus, ou 12 000 euros en l'occurrence, versus 6 millions, mais je ne sais pas quel est le facteur entre les deux. Mais enfin, c'est pas x6, ouais, c'est pas x6, ouais, c'est pas x8, ouais, c'est pas x10.
Ouais, ouais, bien sûr.
On est plutôt autour de tu vois,
ouais,
100.
Ouais.
x50 au moins.
Ah oui, non, bah même, enfin, on est au moins sur du x1000 en fait.
C'est ça. Donc du coup, tu vois, quand tu dis x5, c'est peut-être trop. Moi, je te dis, même si on était à x8, comme c'était le cas dans les 70 finalement, ça serait déjà pas mal finalement.
Ouais, tout à fait.
Ah, on est loin hein, du x5.
Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr.
Mais je comprends la remarque, en vrai.
Parce oui, lui, tout dépend avec ses potes, à un moment quoi. Donné, voilà. Où, mais on est dans un système démocratique qui permet en fait l'organisation de ces points de comparaison comme ceux-là là. Et ça, à un moment donné, ça doit être rompu. C'est on doit avoir aussi un cadre de comparaison qui soit tout autre en fait. Voilà. Excuse-moi, je réfléchis en fait là à notre conversation où je vois aussi là qu'on arrive petit à petit là vers la fin. Moi, j'entends régulièrement en fait des personnes qui, à partir des données biogéophysiques actuelles et qui prennent acte de tous ces savoirs bioclimatiques et qui du coup se disent mais la démocratie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que démocratie ne rime pas avec limite pour eux dans leur représentation. Et du coup, envisage autre chose. Et dans cette autre chose, hop, assez rapidement, c'est autocratie, dictature, etc. Je pense pas que ce soit systématiquement des personnes qui aillent jusqu'au bout du raisonnement en se disant, mais en fait, je veux vivre dans une dictature. Mais c'est plutôt que on n'arrive pas à penser la démocratie désaliénée de cette mainmise économique. De
l'individualisme.
Voilà, tout à fait. Donc là, c'est à cet endroit-là où, de fait, on a un exercice à la fois de créativité, mais qui est assez simple, puisque derrière, c'est faire travailler le législateur, en fait. Voilà, tout simplement. À partir des données biogéophysiques.
Donc, ce qu'il faudrait, c'est du courage politique, selon toi.
Oui, ça, c'est sûr. Je pense qu'à tous les endroits, c'est du courage qui est convoqué. C'est-à-dire du courage de prendre acte du réel tel qu'il est et d'un monde qui s'en va. Ça, c'est sûr. Du courage à l'échelle individuelle, il y a besoin de courage. Chez les enseignants, par exemple, moi, je suis enseignant-chercheur, et chez les enseignants, il y a la nécessité de trouver le courage de nommer des savoirs qui ne sont pas nécessairement dans le programme ou qui ne sont pas nécessairement dans les maquettes académiques. Mais c'est pourtant nécessaire d'aller sur ce terrain-là. Et puis, toutes les professions, là, quelles qu'elles soient, de fait, il y a un courage qui est convoqué. Et puis, bien sûr, in fine, un courage politique qui est de se désaliéner de la mainmise économique.
Parfait. Merci beaucoup. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Moi, ce à quoi je veux ouvrir la porte, c'est au savoir. Voilà, c'est vraiment pour moi le fil conducteur et ce qui revient. Au savoir bioclimatique et les savoirs bioclimatiques appréhendés à partir de deux grands ensembles. Tout ce qui va renvoyer à la biogéophysique, c'est-à-dire au savoir des sciences exactes, naturelles, physiques, etc. Mais aussi à l'ensemble des savoirs sociopolitiques, tout ce que nous disent les sciences humaines, pour comprendre la mécanique même du système Terre, pour comprendre la matière du système Terre et ce que vit la matière aujourd'hui, les savoirs de la physique ne suffisent pas. On a besoin de mettre des mots, et les mots, c'est des mots sociopolitiques, c'est capitalisme rentier et spéculatif, néolibéralisme, maximisation des intérêts individuels, classe rapace, etc. Et donc, du coup, voilà, quand je dis ouvrir la porte au savoir bioclimatique dans cette dimension vraiment strictement physique, et puis toute cette dimension politique pour nommer les choses jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup, c'était hyper agréable.
Et j'ai pas dit à quoi je voulais claquer
la partie. Ah, t'es pas obligé de claquer, tu peux claquer, oui. Mais tu peux claquer si tu veux, hein. C'est un ou l'autre ou les deux.
Ah ouais, d'accord.
Mais si tu veux claquer, vas-y, n'hésite pas, on veut claquer la porte à Cyril Hanouna, à Enthoven, à Marc Lesgui.
Moi, là où j'ai envie de claquer la porte, fondamentalement, c'est au mensonge qui anime le récit mensonger, au mensonge qui anime le récit autoritaire, en faisant à croire que, à un moment donné, c'est un récit qui peut se centrer sur autre chose que lui-même, au mensonge qui anime le récit californien, en faisant miroiter un salut par la technique duquel ne viendra ni mon ni merveille, au mensonge aussi de la dépolitisation des questions environnementales, en faisant reporter sur chaque citoyen le devenir de l'aventure humaine, au mensonge, bien sûr, du récit pervers, qui à un moment donné, nous raconte quelque chose dans l'espoir que la planète soit sensible à la com, quoi, à la com politique, quoi. Bon, voilà. Donc, dire non et claquer la porte au mensonge.
Cool. Merci beaucoup.
Un grand, grand merci, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !